C'est la 9e femme à avoir été élue à l'Académie française. Philosophe, chercheuse, traductrice, Barbara Cassin sera au Maroc la semaine prochaine. Un programme chargé pour elle. Elle vient participer au Salon international de l'édition et du livre de Casablanca. Elle présidera également le jury du prix littéraire Grand Atlas qui sera remis ce jeudi. Barbara Cassin sera avec nous dans la deuxième partie de l'émission. On va revenir également sur le festival sur le Niger qui s'est refermé à Ségou au Mali. On fera le bilan avec notre envoyé spécial, Christelle Pire. Mais pour l'instant, on plonge dans l'univers de Youma. Youma, c'est un duo venu de Tunisie, composé de Sabrine Jenhani et de Rami Zohralami. Ils seront en tournée à partir de la semaine prochaine au Maroc. Un style intimiste, c'est soigné, très harmonieux. On les écoute et dans un instant, nous serons avec la moitié féminine de ce duo, Sabrine Jenhani.
كلام القلب ما يريد ونجوم بلاش احساب تذوي لرمشة الحبيب
سجارتين بلا عين
سجارتين بالعيدان في قاب
Sabrine Jeanne Hani, bonjour.
Bonjour.
Votre deuxième album s'appelle Gbar Njoum, Poussière d'étoiles. On est toujours dans le même univers, une musique acoustique, quelque chose d'assez doux, de très harmonieux, de planant également parfois. Mais vous n'êtes plus que tous les deux avec Rami, vous êtes ouvert cette fois à d'autres collaborations. Il y a un mariage avec la Bretagne, cette région de l'ouest de la France. Expliquez-nous tout cela.
Alors, nous avons effectivement travaillé sur le deuxième album avec des Bretons que nous avons rencontrés sur la route, des gens que nous apprécions énormément et avec qui nous avons appris à laisser la musique voyager un peu plus vers d'autres sons, des sons électroniques, des sons d'autres instruments qui ne soient pas la guitare, forcément. Donc, nous avons travaillé avec Antonin Volson du côté de la Bretagne, du côté de Langonnec, à proximité de Quimper. Après quoi, nous sommes repartis en Tunisie pour continuer sur un deuxième temps de travail de l'album avec Skander Besbes, qui est très pointilleux sur les sons électroniques. Donc, il a ramené un peu plus l'album vers cet univers-là. Il y a eu deux directions, donc la direction artistique du côté acoustique et ensuite la direction artistique du côté électronique. Voilà.
Que raconte Poussière d'étoiles ? J'ai lu quelque part qu'il était question de fable, de mysticisme, de sorcellerie.
Il y a tout ça.
C'est la Bretagne, c'est peut-être l'influence de la Bretagne aussi là.
Je pense que ce qui nous relie en fait très intimement à la Bretagne et en l'occurrence à notre label en fait, c'est cet aspect de l'attachement à la langue. Alors nous, moi et Rami, Youma tient beaucoup à la langue derja, donc la langue tunisienne, parlée mais qui n'est pas étudiée à l'école. Une langue qui malheureusement, elle évolue continuellement, mais malheureusement elle est en train de se faner, il y a plusieurs termes qui sont en train de se perdre. Et nous avons beaucoup travaillé sur le collectage en fait de mots, sur la poésie autour de cette langue, tout en restant bien évidemment dans un langage assez moderne, assez contemporain. Donc nous étions tout de suite d'accord que la langue en fait autochtone est une langue qui doit être beaucoup plus valorisée que les langues qui n'ont pas besoin, en fait, ils n'ont pas besoin de pub, quoi. Là.
Je comprends, Yoma. Sabrine, je vous perds un petit
la
peu.
La langue officielle n'a pas besoin d'être commercialisée. Elle est déjà officielle, elle est déjà sur les devants. Par contre, ces langues-là qui sont en train de se perdre, elles sont en train de perdre de leur valeur, de leur.
Quand vous parlez de la langue officielle, vous parlez de l'anglais peut-être, enfin notamment.
De l'anglais, de l'anglais, de l'arabe littéraire, du français. Mais il y a d'autres langues qu'on appelle dialectes aujourd'hui, malheureusement. Je ne comprends pas pourquoi on les appelle dialectes quand c'est une langue qui est chargée d'histoire, chargée d'émotions, chargée de choses que ne contiennent pas les autres langues. Voilà ce que je suis en train de dire, en fait.
Cette défense de l'identité culturelle que vous portez avec Youma depuis le début, c'est quelque chose qui a résonné en Bretagne. C'est un combat que vous avez retrouvé en Bretagne, de défense d'identité.
Voilà, nous sommes croisés sur cette problématique de l'identité. Et puis, l'univers musical, c'est réellement ce qu'on a écouté quand on était petit, moi et Rami. Nous avons beaucoup de mélomanes en Tunisie. On écoute la musique de l'Est à l'Ouest, du Sud au Nord, de tous les pays. Il n'y a pas de retenue, quoi. Nous aimons la musique d'où elle vient. Tant qu'elle est chargée en émotion, tant qu'elle est chargée en un message important ou un message sincère, nous l'écoutons.
Au tout début de votre carrière avec Rami, vous avez fait ce qu'on appelle des mash-ups, c'est-à-dire la réunion de deux chansons connues en une seule. C'est un petit jeu musical. Il faut jongler avec les harmonies, les sonorités. Et vous avez marié des chansons orientales à des chansons occidentales.
Oui, oui. C'était le tout premier projet qui nous avait réunis, moi et Rami. C'est comme ça que nous avons commencé à collaborer ensemble. Donc le choix des chansons, c'était le choix du projet déjà, c'était de croiser les deux cultures, la culture occidentale et la culture orientale, et d'essayer de créer cet univers en fait qui soit à la fois minimaliste, mais en même temps qui est dans la réconciliation entre ces deux cultures-là. Donc voilà, nous étions encore en train de nous amuser à cette époque-là. Ça nous a coûté cher.
Comment ça vous a coûté cher?
Pour la blague,
Ouais,
non,
d'accord.
ça nous a mené vraiment très très loin.
Parmi ces mashups, il y avait Abaytak de Férouz et Summertime Sadness de Lana Del Rey.
Oui. Tout ça pour dire, c'est qu'on aime autant Fayrouz, Mohamed Abdelwahed que Lana Del Rey. C'était tout à notre image, je pense. Et on a continué à faire la même chose avec les compositions originales. Et ça, je pense, c'est une sorte de ligne éditoriale, comme on dit. C'est le timbre de l'humain.
بالصيف نطرت بالشتي حبيتك بالصيف حبيتك بالشتي نطرتك بالصيف نطرت بالشتي I got the summertime sadness Got the summertime sadness I got the summertime sadness Oh, I got my red lips on tonight Dancing in the dark in the pale moonlight Down my hair up will be queen style High heels up, feeling alive Habaytak, b'sayif, Habaytak, b'shiti Habaytak, b'sayif, Habaytak, b'shiti Habaytak, b'sayif, بالصيف نطرت بالشتي والعيون الصيف والعيون الشتي ملقانا
Sabrine, vous appelez les jeunes Tunisiens à chanter dans leur langue, en tunisien, et vous leur dites, pensez à ne jamais trop vous éloigner de votre culture, vos racines.
Oui, en fait, nous avons fait le choix, moi et Rami, de faire de la musique comme une bataille, en fait. Non seulement le choix du texte, et puis le choix de rester dans le pays, de faire de ce métier un métier qui va en créer d'autres. Donc d'abord, créer les métiers autour de nous, mais ensuite, inciter les jeunes à venir vers les théâtres, les inciter également à aller vers ces métiers-là. Peut-être créer et ne plus réfléchir ou ne plus s'embêter avec des questions de comment je vais produire, comment je vais avancer. Il faut juste y croire, il faut se dire que si le projet est sincère, si le projet est de taille, il fera son petit bout de chemin tout seul. En tout cas, avec Rami, c'est comme ça que nous avons commencé. Nous sommes partis vraiment de rien. Nous sommes partis d'un home studio et voilà ce qu'il en est aujourd'hui. Donc il faut croire en soi et laisser les choses faire, laisser la magie opérer.
Croire en soi, croire aussi dans son pays, croire dans la Tunisie. Vous dites qu'il faut arrêter de croire que c'est forcément mieux ailleurs, que l'herbe est plus verte ailleurs.
L'herbe, elle est verte ici, elle est verte ailleurs, elle est verte partout. Mmh. Il faut juste valoriser ce que l'on a pour pouvoir profiter. Il y a un artiste que j'aime beaucoup qui a dit une phrase qui m'a beaucoup marquée. Il a dit « Si on n'est pas bien chez soi, on ne pourra pas l'être ailleurs parce qu'on emmène soi partout où on va. » C'est juste ça. Il faut être bien là où on est.
Et peut-être à ce moment-là, faire avancer ses idées, ce en quoi l'on croit sur place, là où on est, dans son univers, dans sa famille, dans sa société. Vous défendez l'idée d'un artiste qui est engagé politiquement, qui a un message à faire passer. C'est ce que vous faites dans vos chansons.
À mon avis, faire de la musique en Tunisie, c'est un acte de militantisme continuel. C'est très difficile d'être dans ces métiers-là. Il n'y a pas beaucoup de structures, il n'y a pas beaucoup d'aide. Il n'est pas vraiment pour se lamenter, mais c'est une réalité un peu triste. Nous sommes dans le management, nous sommes dans la production, nous sommes dans l'écriture, nous sommes dans le community management. Nous portons 15 casquettes à la fois. C'est très difficile car il n'y a pas de corps de production. Et alors, peut-être que cette forme d'engagement-là, elle est en train de se traduire également dans les textes, ou peut-être qu'elle est encore en train de se traduire dans la musique. Il y a certainement une forme d'engagement dans tout ce qu'on fait, en fait. Je ne parle pas là de l'artiste, en l'occurrence, je parle en général. Il y a certainement une raison qui nous pousse à faire une chose et pas une autre. C'est un choix. Alors, oui, peut-être que c'est une forme d'engagement social, mais voilà, je ne sais pas. Je suis encore dans le questionnement à moi-même.
C'est vrai. Bon, écoutez, je pense que la vie ne peut être... Enfin, c'est peut-être aussi notre destin à nous interroger tout au long de notre existence. Dans vos chansons, Youma, vous parlez de faits de société comme les mariages arrangés, les mariages forcés. Vous parlez de la place de la femme dans le monde arabe, dans le monde tout court. La visibilité qu'a un artiste, le fait qu'il soit comme cela regardé, qu'il soit scruté, peut-être parfois admiré, il doit s'en servir pour défendre certaines idées, une vision de la société, dire ce en quoi il croit.
Je me rends compte du poids que ça a, en fait, d'avoir cette visibilité-là. Et effectivement, j'aime mettre le point, comme j'aime me questionner, comme je disais tout à l'heure, j'aime me questionner sur les choses qui constituent ma vie aujourd'hui, qui font que je sois dérangée étant une femme en Tunisie. Quelles sont ces choses? Et c'est bien de les identifier, c'est bien de les dépasser, en tout cas, d'essayer de tout faire pour pouvoir les dépasser. Et dans ces questionnements-là, il y a également une sorte de souffrance, mais aussi une sorte de libération.
Mehdi, un bain de culture avec David Labo.
توحشت اللين وريحة الياسمين توحشت اللين وريحة الياسمين زنق الطريق ويلحس ودوا جري شوارع كبرى قواس الحومة توحشت اللين والكرمة كيف تميل توحشت اللين والكرمة كيف تميل خزر وغمزة وعشق الطفلة الأولى وقت الكلمة سليد محلولة توحشت الخيل وريحة الياسمين توحشت الخيل وريحة الياسمين توحشت أمي وخرافات الغولة قهوة أختي وضحكة مش مغصورة توحشت سنين وريحة الياسمين توحشت سنين وريحة الياسمين توا ساكن بر الناس براسي بعيد وباقي الحسرة مواسي توحشت اسمك ونفنا باش نلقاك توحشت اسمك
Sabrine, Yuma, comme beaucoup de groupes aujourd'hui, vous êtes fait connaître par Internet, par les réseaux sociaux. Sans eux, rien n'était possible.
C'est vrai. Les réseaux sociaux ont joué un rôle très important car les médias classiques ont mis vraiment longtemps avant de nous contacter. Alors, je parle des médias classiques en Tunisie. En fait, ça a pris exactement 2 ans pour que les médias classiques se rendent compte de notre existence. Le public qui nous a suivis depuis le début, c'est lui, c'est ce public même qui a boosté, qui a porté le projet jusqu'à la fin. J'ai pas envie de dire ça, en fait. Je vais pas dire ça, mais jusqu'au bout, quoi, jusqu'au bout du rêve.
Ce qui est formidable, c'est qu'effectivement, Internet, les réseaux sociaux existent aujourd'hui. Ça, c'est à la portée de tout un chacun. C'est une antichambre, c'est dans laquelle tout le monde peut s'introduire et puis après, éventuellement, se faire connaître, se faire remarquer par les médias, comme vous dites, traditionnels. Les réseaux sociaux, c'est d'un impact mondial aujourd'hui. Vous êtes déjà venu au Maroc il y a 2 ans, c'était pour Visa for Music. Et à cette occasion, vous avez pu vérifier que, bah oui, au Maroc aussi, vous avez un public. Qui vous a connu par ce biais-là, par le biais des réseaux sociaux?
Effectivement, c'était incroyable. Je n'y croyais pas personnellement. On était arrivés la veille du spectacle, du jour du spectacle. Et en arrivant, je me disais, bon, ça va être sympa, Rabat. Le concert à Rabat, ça va être sympa. On va peut-être rencontrer un nouveau public. C'est toujours une expérience, de toute façon, de rencontrer un public nouveau, un public qui ne connaît pas la musique, surtout s'il est dans l'écoute et s'il est dans la découverte. Alors voilà, on était vraiment dans cet état d'esprit-là, moi et Rami. Mais à notre plus grande surprise, nous avons reçu tout plein de messages et puis on a reçu sur place plein de monde qui était friand du spectacle, content de nous rencontrer. C'était comme à la maison. Voilà.
Et de voir comme ça des gens dans la salle, des garçons, des filles qui connaissaient les paroles de vos chansons, c'est une super surprise.
C'est une super surprise, je m'en souviens maintenant et j'ai un gros sourire sur le visage. C'est incroyable. La musique et le voyage.
Du coup, impatient l'un et l'autre de revenir.
À fond. J'ai hâte. Vraiment, j'ai hâte. J'attends avec impatience de venir.
Voilà, Yuma, très impatient de revenir au Maroc. Si vous ne les connaissez pas encore, allez-y. C'est formidable. C'est une tournée dans les instituts français. La première date, ce sera El Jadida, jeudi prochain, le 14 février. La dernière, le 23 février, à Agadir. Entre-temps, ils vont passer par Casablanca le 15, Meknès le 16, Fès le 19, Tétouan le 20 et Kenitra le 21. Vous restez avec nous, Bonne Culture revient. Dans la seconde partie, nous serons avec l'une des intellectuelles les plus en vue aujourd'hui en France, l'académicienne Barbara Cassin, au Maroc la semaine prochaine pour le Ciel et le Prix Grand Atlas. Et puis nous serons aussi au Mali pour faire le bilan de la 15e édition du Festival sur le Niger. A tout de suite. Come down to you now, 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 now.
baby, won't you please open the door and let me in till we can forget all, just you and me. Forever downtown in the city, my love, my dear, my sweet baby. I need to see, to feel, to breathe your touch, your kiss, your smile.
Kumuji kwama manda nyamanyi manda nga kumandi jamajigi angele njiri ya netere jamajigi angele njiri ya netere nedunye fa
Midiya. David Labou.
C'est une institution en France créée en 1635. Elle est chargée de définir la langue française en élaborant, en révisant, en amendant constamment le dictionnaire qui fixe l'usage de cette langue. L'Académie française, composée de 40 sages, on les surnomme les éternels, que des hommes pendant des siècles, avant que ces messieurs acceptent d'ouvrir leur club. En 1980, l'écrivain Marguerite Yourcenar est la première femme élue à l'Académie. La dernière, c'était il y a moins d'un an, c'est Barbara Cassin, la 9e femme à faire son entrée sous la coupole depuis la naissance de la vénérable institution. Philosophe, amoureuse de la langue, helléniste, Barbara Cassin sera notre invitée dans 10 minutes. Pour l'instant, Abdoulaye Diabaté, il était en concert la semaine dernière à Ségou pour le festival sur le Niger. Christelle Pire était sur place pour Médien. On la retrouve juste après pour faire le bilan de cette 15e édition. C'est le plus important festival au Mali, il s'est refermé hier soir à Ségou, le festival sur le Niger. Les organisateurs espéraient 30 000 visiteurs pour mettre toutes leurs chances de leur côté. Cette année, ils avaient décidé de coupler cet événement avec Ségou Art, une biennale d'art contemporain. Bonjour Christelle Pire.
Bonjour David, bonjour à tous.
Christelle, vous y étiez à ce festival, concerts, théâtre, artisanat, comme chaque année, mais aussi donc, pour cette 15e édition, des expositions d'art contemporain.
Oui, sur le thème de Ségou Yélène. Yélène qui signifie « lumière » en bambara, la langue locale. Alors la plupart des expositions étaient au village du festival, qui a posé ses quartiers dans l'ancienne usine de la compagnie malienne de textile. C'est donc un endroit assez grand, avec plusieurs entrepôts, plusieurs hangars qui ont été aménagés pour accueillir les œuvres. Parmi les artistes exposés, on peut citer quelques grands noms, comme le Camerounais Barthélémy Togo ou le Sénégalais Soli Cissé. Du côté des Maliens, on trouvait notamment Cheikh Diallo, un architecte designer qui a organisé un masterclass d'une semaine avec des jeunes de Ségou, mais pas des artistes, non, des artisans comme des ferronniers ou des teinturières, avec lesquels il a travaillé des matériaux simples, le bambou, le métal, avec pour objectif de créer des œuvres assez imposantes qui rappellent de grandes robes. Écoutez-le.
Aujourd'hui, il est de notre devoir de former et de transmettre ce qu'on sait aux plus jeunes, mais on cherche à le faire dans les meilleures manières, parce que créer aujourd'hui relève du miracle presque, et ces jeunes qui sont motivés ont envie d'apprendre. Et nous, on se doit de leur montrer comment, par quelle méthode on peut réussir à se freiner son chemin dans le domaine de la création.
Alors voilà pour cette masterclass. Malheureusement, Christelle, vous me le disiez, hein, ce festival sur le Niger, Ségou Art, n'a pas passionné les foules cette année.
Non, c'est sûr qu'il y a eu une baisse de la fréquentation par rapport à l'année dernière. Les organisateurs attendaient 10 000 visiteurs de moins. Plusieurs raisons à cela, les conditions sécuritaires bien sûr qui se sont dégradées dans la région de Ségou. Mais surtout, il y a eu une certaine confusion entre le festival sur le Niger, qui est très populaire et qui en est à sa 15e édition, et Ségou Art, dont c'est seulement la seconde édition. Les organisateurs ont voulu coupler les deux, notamment pour donner plus de visibilité à l'art contemporain. Mais beaucoup de Maliens se sont demandé s'il y aurait encore des concerts le soir, comme c'était la tradition au festival.
Et puis l'art contemporain n'a pas forcément un public au Mali, contrairement à la musique, contrairement au théâtre. Une biennale comme Ségou Art, c'était forcément un défi, comme l'explique Ataer Maïga, c'est l'un des organisateurs.
Ces dernières années, le besoin se faisait sentir pour les jeunes artistes africains de promouvoir leurs œuvres, d'avoir un espace où ils peuvent avoir plus de visibilité et de créer en même temps autour de cela un marché de l'art. Parce qu'il y a beaucoup de créations, mais le marché de l'art en Afrique ici est très lent, est très timide.
Un marché timide avec peu de galeries, peu d'acheteurs, mais qui se développe quand même peu à peu. C'est un marché en devenir.
Oui, la preuve, c'est le off du festival qui était bien rempli avec une quinzaine de lieux dans toute la ville de Ségou, avec que des jeunes artistes maliens. Je me suis par exemple rendue à la galerie Mierouba qui accueillait le collectif d'artistes Badialan 1. Parmi eux, il y a le peintre Clémaga Toussaint Dembélé. Lui travaille avec un galeriste français, il vient d'exposer à Londres et lui aussi témoigne de la difficulté de séduire le public malien.
C'est une question de culture. Depuis tout petit, il y a des enseignements de base d'art plastique, d'art visuel qui est plus développé dans les pays occidentaux que chez nous. Et en grandissant, le ventre creux aussi une réflexion à moins d'importance face à d'autres choses, quoi. Celui qui cherche à en manger est difficile à convaincre de la nourriture spirituelle.
Voilà, le peintre Clémaga Toussaint Dembélé. Christelle, à quoi ressemblent les œuvres qu'il a présentées?
Alors, ce sont des peintures, David, des peintures qui s'inspirent des cyclistes que l'on voit partout au Mali, qui toute la journée portent de gros bidons. L'artiste dit avoir voulu symboliser les charges, les responsabilités, les rôles imposés par la société que chacun porte chaque jour sur ses épaules.
Ouais, c'est le principe. Hein. Derrière chaque œuvre, il y a à chaque fois un discours, c'est fort. Justement, en ce qui concerne l'inspiration, on se doute que la crise au Mali était au centre de beaucoup d'œuvres, qu'elle a inspiré les artistes, qu'on retrouve cela dans leur travail.
Hein. Oui, malheureusement, comme dans le travail du sculpteur Amidou Koumaré, par exemple. Il a créé 3 sculptures faites à base de clous. Il s'agit d'un vieux, d'une femme et d'un manchot dont la main a été amputée par les terroristes, comme cela a parfois été le cas pendant l'occupation du Nord en 2012. La crise malienne est donc clairement sa principale source d'inspiration.
Pas mal d'artistes sont en train de travailler sur ça. Je ne suis pas le seul. Mais moi, j'ai commencé depuis 2014. J'ai en train de travailler sur ça. Ça nous inspire parce qu'il faut combattre ça aussi. Parce qu'on n'est pas là pour ça. C'est vrai, nous sommes au Mali. Okay, il ne faut pas qu'ils viennent d'ailleurs pour nous imposer la religion. On n'est pas d'accord. On est tous des musulmans.
Voilà le sculpteur Amidou Koumaré, Christelle Pire, avec nous dans Ban Culture ce dimanche. Christelle, vous étiez notre envoyée spéciale au festival sur le Niger. Merci.
Merci à vous et puis à bientôt.
Et dans un instant, la philosophe française Barbara Cassin, invitée dans quelques jours du Salon international de l'édition et du livre à Casablanca. Pour la rejoindre, Sexto Rodriguez. Cause, c'est une chanson de 1971.
Musique. 'cause I lost my job 2 weeks before Christmas. And I talked to Jesus at the sewer, and the Pope said it was none of his goddamn business. While the rain drank champagne, my Estonian archangel came and got me wasted. 'Cause the sweetest kiss I ever got is the one I've never tasted. Oh, but they'll take their bonus pay to Molly McDonald. Neon lady, beauty's that which obeys, is bought or borrowed. Cause my heart's become a crooked hotel, full of rumors. But it's I who pays the rent for these fingered face out of tuners. And I make 16 solid half-hour friendships every evening. Cause your queen of hearts, who's half a stone and likes to laugh alone, is always threatening you with leaving. Oh, but they'll play those token games on Willie Thompson and give a medal to replace the sun of Mrs. Annie Johnson. Cause they told me everybody's gotta pay their dues, and I explained that I had overpaid them. So overdue, I went to the company store, and the clerk there said that they had just been invaded. So I set sail in a teardrop and escaped beneath the door sill. Cause the smell of her perfume echoes in my head still. Cause I see my people trying to drown the sun in weekends of whiskey sours. Cause how many times can you wake up in this comic book and plant flowers?
Bonjour Barbara Cassin.
Bonjour.
Philosophe, chercheuse, traductrice, membre de l'Académie française. On vous attend au Maroc la semaine prochaine. Vous aurez une semaine chargée. Vous allez participer à deux événements autour de la littérature, le prix Grand Atlas et le ciel à Casablanca. On va en parler, mais tout d'abord, Barbara Cassin, quel est votre lien avec le Maroc? Vous connaissez le pays? Y êtes-vous déjà venue? Quelle image en avez-vous?
Je suis déjà venue plusieurs fois, en particulier avec Ali Ben Makhlouf, qui a traduit le dictionnaire des intraduisibles, ou une portion. Il a dirigé la traduction d'une partie du dictionnaire en arabe. Et donc, j'ai beaucoup travaillé avec ses traducteurs, avec Ali Janjar, avec un certain nombre de gens, avec Mohamed Janjar, pardon.
Barbara Cassin, vous présidez le jury du prix Grand Atlas cette année. Il y a une catégorie pour récompenser les traductions en langue arabe. Comment juge-t-on une traduction? Qu'est-ce qui fait qu'une traduction est particulièrement réussie? Comment cela s'évalue?
Oh, c'est difficile et il faut sûrement croiser plusieurs critères. L'un des critères est aussi que le livre lui-même soit important et qu'il soit significatif pour la culture qui le reçoit, autant que pour la culture qui le fait. Et puis ensuite, il y a la qualité proprement dite de la traduction, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit véritablement transposé. Moi, j'appelle la traduction, je définis la traduction comme un savoir-faire avec les différences. C'est donc non pas une copie, mais vraiment à chaque fois une réinvention, une adaptation à la langue, au lieu, au public et aux intérêts.
L'un de vos derniers ouvrages s'appelle « Éloge de la traduction », c'est publié chez Fayard. Le titre exact, c'est « Éloge de la traduction, compliquer l'universel ». Cela peut paraître contradictoire. Que voulez-vous dire par là?
Je ne vois pas en quoi ça serait contradictoire. Qu'est-ce qui vous paraît contradictoire?
Compliquer l'universel. C'est le fait d'accoler l'éloge, c'est quelque chose qui me semble tout à fait positif. Et compliquer l'universel, le terme compliqué ne semble pas très positif.
Ah, pour moi, c'est très positif de compliquer l'universel. Quand je disais que la traduction était un savoir-faire avec les différences, vous voyez immédiatement que cela implique de ne pas croire que la vérité ou l'origine repose quelque part. Et ça, la vérité avec un grand V, l'origine avec un grand O, l'universel avec un grand U, toutes ces unicités idéologiques, c'est cela qui se complique avec la traduction. Et pour moi, l'universel, c'est toujours l'universel de quelqu'un. Donc, il vaut mieux savoir qu'il y a plusieurs universels, plusieurs types d'universels, et qu'on passe au fond d'un certain type d'universalité à un autre type d'universalité quand on traduit.
Dans la première partie de l'émission, nous étions avec un duo tunisien, le duo Youma, qui défend l'utilisation de leur langue dans leur expression musicale pour défendre leur identité. Vous avez dirigé la rédaction du vocabulaire européen des philosophies, dictionnaire des intraduisibles. Vous avez une jolie expression, vous dites qu'une langue, ce n'est pas un simple outil de communication, c'est un filet différent jeté sur le monde qui ramène d'autres poissons, qui dessinent un autre monde.
Oui. C'est une vieille idée, je ne suis pas la première à l'avoir. Et la métaphore du filet, c'est une métaphore qui est employée aussi bien par Humboldt, par exemple, le grand linguiste allemand de la fin du 19e, que par Trubetskoy, un linguiste russe. Une langue, en effet, c'est quelque chose qui rapporte un monde, qui est une vision du monde. Et c'est en ce sens que la traduction est un travail pas seulement technique, comme on pourrait croire, ou alors c'est une technique très évoluée. C'est un travail de réinvention et de réflexion. On retrouve un autre monde.
Des mondes à chaque fois différents, des cultures différentes.
Oui.
Un monde où tout le monde, pour se faire comprendre, ne communiquerait plus qu'en anglais, et puis dans un pauvre anglais, ce qu'on appelle le globish, pour vous, ce serait un cauchemar?
Je pense qu'il faut de toute façon une langue de communication. Je veux dire, il y en a toujours eu, et ça n'est pas grave. Il faut bien pouvoir demander un café quand on se retrouve à Tamanrasset. Bon, mais ce qui est grave, c'est qu'il n'y ait que cela. C'est-à-dire qu'on pense que la langue sert seulement à communiquer. Or, la langue, justement, quand vous avez pris la métaphore du filet et qu'elle vous a semblé bonne, vous voyez bien qu'elle sert à fabriquer un monde, à le montrer. Il y a une co-fabrication de la langue et d'un certain monde ou d'une certaine culture. Donc c'est en cela que les langues différentes sont intéressantes, parce qu'elles apportent d'autres vues du monde, d'autres mondes. Et c'est pour ça que j'appelle la traduction un savoir-faire avec les différences. Le globiche, c'est un seul monde très plat. Et finalement, puisqu'il s'agit quand même d'un anglais globalisé, eh bien forcément vectorisé à l'américaine, à l'anglo-saxonne, et mettons, pour le dire vite et de manière un peu critique, de manière capitalistique.
Barbara Cassin, présidente du jury du prix littéraire Grand Atlas cette année, vous serez présente aussi au Ciel samedi prochain. Vous allez y présenter votre livre « Éloge de la traduction » traduit en arabe, disponible en arabe. La veille, vous serez à l'université Mohamed V de Rabat où vous allez participer à une table ronde en fin d'après-midi de 16h à 18h. La traduction, un savoir-faire avec les différences. Vous serez aux côtés de Souleymane Bachir Diane et de Mohamed Bennis. Merci d'avoir répondu à mes questions.
Merci à vous de me les avoir posées.
Vous n'oubliez pas Yuma en tournée à compter de la semaine prochaine au Maroc, El Jadida jeudi, Casablanca vendredi, Meknès samedi, et puis Fès, Tétouan, Kenitra. Toutes les dates sur le site de Média, la rubrique Bain de Culture. 1,54, la Foire internationale d'art contemporain revient à Marrakech les 23 et 24 février. Le FICAM, le festival international consacré aux films d'animation à Meknès, le mois prochain, du 22 au 27 mars. Ce sera la 18e édition. Et puis ce bâtiment mythique dans une ville qu'il est tout autant, le Grand Théâtre Cervantes à Tanger, construit en 1913 à l'époque du Tanger international. Il était rapidement devenu la plus grande scène d'Afrique du Nord. Créé par un couple venu de Cadiz, il a longtemps représenté la relation entre le Maroc et l'Espagne. Chef-d'œuvre de l'art nouveau, sa salle magnifiquement décorée a vu passer les célébrités de l'époque, le ténor italien Caruso, l'égyptien Youssef Wahbi. Et puis la décadence, le théâtre devient salle de cinéma et de combat de catch avant d'être abandonné. Cela fait bien longtemps qu'il menace ruine, mais la nouvelle vient de tomber. Propriétaire de l'édifice, l'Espagne le cède gratuitement au Maroc. L'espoir, bien sûr, c'est que la restauration commence et puis qu'une équipe soit nommée, qu'une programmation soit mise en place. Bref, le plus dur commence. On en reparle la semaine prochaine dans Bain de Culture. Et aux commandes de l'émission, ce sera Florence Blanc. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous embrasse.
Média, bain de culture avec David Labo. Drifting your eyes since I love you.